Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne d'Alternante. Alors le 9 juillet prochain se déroulera la troisième édition du festival Calypso, place du commandant Cousteau à Nantes. C'est la troisième édition, je l'ai dit. Les deux précédentes, on les a déjà présentées sur cette antenne et Alternante sera également partie prenante pour cette troisième édition puisque nous serons en direct de la place du commandant Cousteau le 9 juillet de 12h à 13h, je pense. On va mettre tout ça au point avec Christophe Letalec qui est le coordinateur et l'animateur de cette journée festive qui est parmi nous aujourd'hui. Bonjour Christophe.
Bonjour Daniel.
Qui va nous présenter les différentes festivités de ce jour. Le thème choisi cette année, c'est l'océan Indien. Donc le titre, c'est En route vers l'océan Indien. Et également parmi nous, et on est très content de le recevoir, c'est Alexis Weisgerber.
Bonjour.
Je pense que je ne me trompe pas dans
non,
le nom.
C'est ça.
Qui est musicien. Alors, hors antenne, je disais musicien percussionniste, mais c'est bien plus complexe que ça. Et on va peut-être lui laisser, puisqu'il sera aussi présent le jour du festival Place du Commandant Cousteau. Juste un mot, Alexis, sur ta musique.
Juste un mot sur ma musique. Ben, tete kredan, dagetina, kreda, tete kredati, da, da, tete kredina, gedatina, kreda, 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 da, da. En fait, là, ce que je viens de dire, c'est des onomatopées, des bols de tabla. Donc, je suis joueur de tabla et de pakawaj, c'est des percussions indiennes. Voilà, je suis à Nantes, on est en association, ça s'appelle Utana, et je suis en Inde la moitié de l'année pour apprendre ça depuis un moment.
Alors, on imagine un musicien sur le plateau, il sera obligé de jouer tout à l'heure, après qu'il nous aura peut-être expliqué un petit peu plus longuement aussi sa musique, on l'écoutera tout à l'heure. Christophe, alors, on revient sur cette troisième édition. Ça commence à prendre déjà de... Ça s'étoffe, hein, puisque première année, peut-être avec des difficultés, deuxième année quand même, et troisième année, donc, c'est un festival qui s'implante.
Oui, troisième année. La première année, nous avons emmené les personnes en voyage en Afrique, l'année dernière en Amérique du Sud, et cette année, donc, dans l'océan Indien. Ce festival s'implante dans le quartier Beautière-Chesnay, en partenariat avec les commerçants de l'espace Chesnay. C'est une belle aventure, c'est vrai avec beaucoup de difficultés, mais aussi de belles rencontres et des choses intéressantes qui suivent chaque festival.
Oui, alors on rappelle le lieu, parce que c'est vrai qu'il y a un bel espace quand même hein, là-bas, hein, où on peut, c'est un espace où peuvent s'installer les différents invités, hein, il y a une grande place, donc il y a de quoi faire la fête.
Hein. Oui, donc le festival se déroule sur la place du commandant Cousteau, dans le nouveau écoquartier Beautière-Chesnay. Donc c'est vrai que c'est un espace qui est assez imposant, qu'il faut aménager. C'est quand même assez froid au niveau environnement, pour l'instant encore, parce que les aménagements ne sont pas encore terminés tout autour, mais c'est un bel espace, c'est vrai, il y a de quoi faire une belle fête.
Alors la première année, je me souviens, je crois que le temps n'était pas trop de la partie. La deuxième année, c'était mieux. Alors,
la première année, nous avons quelques difficultés avec le temps, en effet, parce qu'il pleuvait, nous avons été obligés de délocaliser la maison de quartier Beautière. L'année dernière, il faisait très très beau, donc ça a été un beau moment, haut en couleur, voilà, de belles rencontres, de beaux échanges aussi avec les différentes personnes présentes. Donc c'était plutôt...
Ouais. Alors, tu es le coordinateur de cette manifestation et aussi l'animateur. Bien sûr, tu n'es pas tout seul dans le fonctionnement de cette aventure. Il y a aussi derrière des associations, il y a aussi les commerçants du quartier, il y a toute une organisation.
Oui, bien sûr, il y a les commerçants du quartier qui sont partie prenante. Moi, je suis vice-président de l'association Sommeur de Convivialité. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons lancé ce festival avec les commerçants d'Espace Chesnay depuis 3 ans. Donc c'est beaucoup de gens autour et beaucoup d'associations aussi extérieures qui viennent, suivant la thématique, nous donner un coup de main, nous présenter aussi leurs actions dans les différents continents. Parce que le but, c'est ça, c'est présenter de la musique, mais également présenter des associations qui interviennent de façon humanitaire sur les différents continents que nous traversons. Puisque au départ, et on peut le rappeler peut-être, l'idée c'était de partir des voyages du commandant Cousteau pour identifier cette place dans le quartier et sa rencontre avec les continents. Donc c'est un voyage permanent. Tous les ans, on essaie d'emmener les personnes sur une thématique à travers les différents continents du globe.
Oui. Si je me souviens bien, l'année dernière, c'était l'Amérique du Sud. Hein, il y a beaucoup d'associations liées à l'Amérique du Sud, à Nantes. Est-ce que c'est aussi facile cette année de choisir la route des Indes ?
Des associations, il y en a beaucoup sur Nantes, hein. C'est vrai qu'on en trouve. Après, certaines sont intéressées, d'autres moins intéressées. Après, les disponibilités de chacun aussi. Chacun intervient dans beaucoup de festivals en général, mais ça se trouve, on a trouvé plusieurs qui vont participer, des associations malgaches, associations indiennes, réunionnaises. Donc on trouve des associations sur Nantes ou dans la région.
Oui, ce choix-là, il a été réfléchi. Vous auriez pu encore choisir. Bientôt, on aura fait le tour de tous les continents. Alors je ne sais pas comment. Quand on aura fait le tour des continents, qu'est-ce que vous ferez après ?
Eh ben, quand on aura fait le tour des continents, il y a une idée justement, c'est de rassembler tout le monde ensemble, notamment pour les 5 ans du festival, parce que c'est l'objectif, c'est que dans 2 ans, c'est de rassembler tous les continents que nous avons traversés avec les musiciens, avec les associations, et de faire une fête qui sera encore plus belle et qui deviendra un grand festival. Le but, c'est ça, faire grandir un festival, c'est partir petit, mais le faire monter, le faire bien connaître, bien s'implanter, et surtout qu'il soit bien identifié auprès de la population.
Cette année, vous avez aussi décidé de faire qu'une journée, c'était plus intéressant que de répartir sur 2 jours.
Une journée, tout le monde connaît.
Complète quand même.
Ouais, hein. Une journée bien complète, mais tout le monde connaît aussi les difficultés financières pour mener bien ce type de projet. Donc c'est une volonté aussi de faire en sorte de mutualiser les moyens pour dépenser le moins d'argent possible et réussir à faire quelque chose de cohérent et qui soit de qualité. Il ne faut pas diluer les moyens dans ce que l'on veut faire. Donc l'idée, c'était vraiment de favoriser ce temps festif avec quand même une belle programmation. Donc on a fait ce choix de le faire sur une journée, sachant que nous avons un budget qui est quand même correct. Nous sommes financés en partie par la ville de Nantes. Nous avons aussi des aides de l'UNACODE. Et commerçants. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi, à un moment donné, être cohérent dans ce que l'on fait. Mais le but, c'est de faire un spectacle de qualité et pas de diluer les moyens de dépenser inutilement.
Oui. Il y a des enseignements, forcément. On tire toujours des enseignements, des expériences précédentes. Qu'est-ce qui, pour vous, ça a été quoi par rapport aux 2 années précédentes, ce qu'il fallait améliorer ou justement ne pas faire ?
On a toujours des choses à améliorer. Et après, c'est vrai que... il n'y a pas eu beaucoup d'erreurs dans l'organisation depuis le départ. On n'a pas été confronté à beaucoup de problèmes, mis à part le temps de la première année. Les partenaires en général que nous avons eus depuis le début sont restés fidèles au festival. Les associations qui sont participées, on a eu un bon retour des associations et elles ont été très contentes de leur participation. Donc c'est plutôt positif et les gens de plus en plus se demandent ce qui va se passer cette année dans la programmation, comment ça va se passer. Donc je pense que les gens commencent dans les habitants et même autour du quartier, parce que la population sur Nantes en parle déjà du festival. Donc je pense que ça commence à...
Oui,
apprendre.
Parce qu'il faut insister, c'est sur un quartier, mais tout le monde est invité. Hein, c'est pour ça qu'on peut dire un des festivals aussi sur Nantes, même si c'est sur une journée.
Tout à fait. L'idée, justement, de faire des manifestations dans les quartiers, que ce soit ici sur Beautier-Chesnay ou sur d'autres quartiers de la ville, c'est justement d'emmener les différentes personnes des différentes zones, secteurs de la ville à se déplacer, aller à la rencontre de nouvelles formes de culture, nouvelles formes d'animation, pour rencontrer aussi, se rencontrer ensemble. Parce que c'est ça qui fait la ville, la force de la ville, ce sont les rencontres qui se font.
Là, tu as mis beaucoup d'énergie depuis plusieurs années pour mettre ce festival-là en place. Et il est un peu unique, je veux dire, sur les quartiers à Nantes ?
Il y a d'autres festivals sur les quartiers. Sur cette forme-là, je ne pense pas. C'est un petit peu unique dans la façon de faire, dans la méthode. Après, je pense que c'est aussi ma personnalité qui fait que je mène ce projet. C'est vrai que beaucoup de difficultés quand même depuis le début. Il faut quand même s'accrocher, vous lancer ce type de projet. Après, j'ai d'autres projets sur d'autres quartiers également et je le fais fonctionner de la même manière. Parce que le but, c'est quand même que les gens s'investissent dans leur secteur et puissent produire quelque chose ensemble, coproduire quelque chose ensemble. Et c'est ce qui est intéressant et c'est peut-être ce qui fait aussi que ça peut perdurer dans le temps.
Oui. Alors juste, comme on a un petit peu le temps, j'en profite puisque tu organises aussi la fête de la musique. Hein, on peut peut-être dire un mot là-dessus. Hein.
Oui, j'organise également avec un collectif d'habitants une fête de la musique sur le secteur de Malakoff, donc le 18 juin, où nous aurons aussi une belle programmation avec une chorale, une fanfare, un groupe de musique brésilienne, un groupe de musique africaine,
un chanteur.
Il n'y a pas un thème particulier, c'est vraiment la musique, un DJ oriental. C'est vraiment de donner une ambiance festive dans ce secteur de la ville.
Oui, alors je m'adresse à Alexis, avant de lui demander précisément de nous expliquer musicalement ce qu'il fait, c'est intéressant comme ça de pouvoir tourner un peu un peu partout, et notamment dans les quartiers.
Pour jouer ? Oui, carrément, parce que alors le problème de la musique indienne, de la musique classique indienne, qui est en un sens aussi proche du jazz que du classique, c'est que souvent, on n'y a pas vraiment accès, il n'y a pas vraiment de structure en France pour l'apprendre, etc. Et ça prend pas mal de temps. Et donc souvent, ce qui se passe, c'est que c'est souvent des gens qui ont plus de 20 ans qui s'y mettent. Et en l'occurrence, le fait de pouvoir jouer justement devant des enfants, etc., etc., c'est de pouvoir amener la musique à des enfants qui aussi ont encore le temps de pouvoir s'y mettre et de pouvoir vraiment faire la chose comme il faut avec le temps nécessaire, etc. Donc non, c'est une vraie chance, c'est une occasion de rendre le truc moins exotique et de démocratiser cet enseignement, quoi.
Oui, tout à fait. Alors, il y a eu le choix de l'Inde cette année, ou de l'océan Indien, ou de ce continent. Et il a fallu chercher longtemps. Ou pourquoi avoir choisi cette année plus ce continent-là qu'un autre, puisqu'il en reste deux autres,
hein. Non, on n'a pas cherché longtemps. C'est venu naturellement dans nos discussions entre nous au niveau de l'association, avec les commerçants. On s'est dit qu'on ne pouvait pas faire quelque chose de moins festif que l'année dernière. Donc c'est un peu guidé notre choix, puisque au niveau de l'Inde, de l'océan Indien, comme au niveau musical, un certain nombre de choses, la danse Bollywood, les musiques, etc. Donc c'était un peu ce qui a guidé notre choix, et puis aussi des associations que l'on a rencontrées et qui nous paraissaient intéressantes dans leur projet humanitaire.
Oui, donc on va entrer un petit peu dans les détails maintenant. Comment va se dérouler un peu cette journée, du moins quels sont les invités, et après on fera peut-être une distinction sur le moment, encore peut-être que le programme n'est pas complètement arrêté, mais concernant ce continent, sur Nantes ou la région, vous avez trouvé suffisamment de personnes ?
Oui, on a trouvé des associations sur Nantes, également une association sur Saint-Nazaire. Voilà. Après, au niveau des groupes de musique, on a trouvé facilement également. La programmation, elle est arrêtée. Nous avons monté un site. Je vous donnerai l'adresse tout à l'heure. Vous retrouverez toute la programmation sur le site. Ça sera beaucoup plus simple. Dans les groupes que nous aurons un groupe de musique malgache qui s'appelle Bézizo. Nous aurons Daé, un chanteur réunionnais avec son groupe de musique. Ils auront une troupe de danse Bollywood qui vient de Paris, une troupe qui tourne dans toute la France, donc un beau spectacle de danse qui s'appelle India Océan. Voilà, donc je pense que nous aurons de quoi faire la fête. Les associations, nous aurons des associations malgaches, indiennes, notamment les enfants de Dehradun, c'est comme ça qu'on prononce, Alexis, qui est sur Saint-Nazaire et qui a monté une école dans ce village en Inde. Qui sont des gens qui voyagent beaucoup là-bas, c'est quelque chose qui fonctionne bien, il y a des bons retours au niveau des résultats scolaires, au niveau des enfants. Donc l'idée, c'est aussi de présenter ce qu'ils font, et ils vont notamment organiser une exposition urbaine, c'est la première fois que nous faisons cela. C'est une exposition qui va être de photos de leurs actions, ces photos vont être mises en place sur les vitrines des commerçants de l'espace Chenet, et nous organiserons une semaine avant une visite avec les habitants du quartier pour expliquer le rôle de leur association et où ont été prises ces photos, et ce que fait l'association au niveau de ce village.
Oui, donc il y a une préparation à l'avance. Hein, pour préparer bien, ça ne se cantonne pas qu'à la journée du 9 juillet. Hein.
Bien sûr, c'est important de préparer les choses en avance et puis de donner une visibilité aussi maximum aux associations, notamment humanitaires, qui interviennent dans ces régions. Donc elles proposeront également de l'artisanat pour financer leurs projets. Donc c'est un choix vraiment de présenter vraiment au niveau... que ce soit éclectique au niveau de la présentation, guide de la musique, mais aussi également de l'artisanat.
Oui, c'est une vitrine pour
les ateliers. Il y aura un certain nombre d'ateliers aussi. Il y aura un atelier de création de mandala, il y aura un atelier de création d'instruments de musique, il y aura un atelier de danse Bollywood. Voilà, il y aura également une sieste musicale qu'Alexis va animer. Donc, il pourra nous expliquer le principe de cette sieste musicale. Enfin, c'est vraiment éclectique et vraiment donner la possibilité à toutes les personnes de participer, de l'enfant jusqu'à l'adulte. Voilà, c'est intergénérationnel et interculturel et c'est ça qui favorise ce que je disais tout à l'heure, la rencontre.
Donc Alexis, on l'a compris, sera présent ce jour-là, place du commandant Cousteau. Alors, on va revenir un peu sur ta vie, ce qui t'a mené à la musique.
J'étais un peu percussionniste avant, musique latine, et puis un jour, j'ai découvert les tabla, qui est la percussion principale en Inde du Nord, on va dire. C'est un peu comme la batterie ici, c'est-à-dire qu'on en utilise à la fois dans la musique pop, le folk, le classique, etc. Il y a plein de sortes de rythmes différents. Et puis après quelques années, j'ai décidé de partir en Inde pour apprendre. Donc je suis arrivé à Calcutta, j'ai mis un peu de temps à trouver un prof, j'en ai testé deux ou trois. Puis j'ai trouvé un bon prof avec qui je suis resté 4-5 saisons et ensuite j'ai changé. Maintenant je suis à Delhi avec un autre professeur de la même lignée musicale. Et donc, bon, l'enseignement est un peu plus particulier. Enfin, ça se perd à cause du système économique maintenant, parce que les gens n'ont plus trop le temps, même les profs. Mais j'ai pas mal habité avec les miens. En échange, je faisais le SEVA, le service qu'on appelle. Je nettoyais et puis je faisais la bouffe en échange de l'enseignement et du logement, quoi.
Et t'as vraiment eu, du coup, cet intérêt pour l'Inde, c'est perpétué,
c'est... Ah ben, c'est vraiment, moi, c'est avant tout musical. Bon, après, on découvre tout le reste quand on y va. On découvre la langue, la culture, etc. Tout ce qui fait qu'il est quand même nécessaire d'aller en Inde, je pense, pour apprendre cette musique, notamment pour comprendre le mood, le ressenti de la musique, etc. C'est un peu dur d'apprendre tout ça sans jamais y aller, je pense.
Alors, que ce soit possible. Je disais tout à l'heure, le terme générique de percussion, c'est énorme, parce qu'il y en a dans le monde entier, il y a des percussions partout.
Et rien qu'en Inde, il y en a des centaines, et rien que dans le sud de l'Inde, il y en a des centaines. Non, moi je me suis cantonné au tabla et au pakawatch, qui est l'ancêtre des tablas, parce que c'est déjà bien assez conséquent comme...
On va te demander dans quelques minutes de jouer, mais je voudrais qu'on revienne, voilà, c'est des auditeurs, on n'a pas de téléspectateurs qui peuvent voir les instruments. Tu as apporté deux
alors
percussions.
Alors là, j'ai une paire de tablas, en fait. Ouais. C'est deux percussions. Il y en a une qui est, en l'occurrence, le baya, qui veut dire gauche en indien, et le daya, droite. Ouais. Donc celui de gauche, c'est la basse. Qui a un son vraiment particulier, très aquatique, parce qu'en fait, on produit la note en frappant avec les doigts, mais en modulant avec le poignet. Donc, c'est comme un instrument sans frette. On peut vraiment moduler la tonalité et l'expression.
Alors ça, c'est exclusivement indien ?
Alors, c'est indien. On en trouve aussi au Pakistan, au Bangladesh. Beaucoup aussi.
Donc c'est du bois.
Et un peu au Népal.
C'est de la peau. Ouais.
Celui de gauche, c'est des peaux de chèvre. Celui de gauche, c'est en cuivre, et celui de droite est en bois. Il y a des lanières avec des bouchons pour tendre les peaux. Et au milieu de la peau, la spécificité des percussions indiennes en général, vous trouverez souvent une pastille noire au milieu de la peau qui permet de créer une harmonique ou une résonance, un son ouvert. Et alors, notamment, la peau de droite s'accorde, c'est un instrument d'accompagnement et de solo, mais avant tout d'accompagnement, et quand on accompagne le chant... que ce soit féminin ou masculin ou la danse, etc., c'est pas le même jeu, et faut s'accorder sur la note principale.
D'accord. Alors, juste avant que tu t'installes, ce que tu vas nous... Ouais. Tu t'accompagnes en chanson ou
Non, là, en l'occurrence, je vais jouer une petite pièce de solo qui est normalement accompagnée mélodiquement par quelqu'un qui me tient un cycle, parce qu'on travaille en cycle de temps. Là, en l'occurrence, c'est le cycle de basse, c'est un 16 temps. Qu'on appelle ça le tintal.
Et cette musique, elle peut être une musique, il peut y avoir de la variété, il peut y avoir du religieux, il peut y avoir des mélanges.
Alors il y a plusieurs courants musicaux dans l'histoire de cette musique. Il y a le style ancien Drupad qui sera assez présent justement lors de la sieste musicale. En fait, c'est une chanteuse de Drupad à Nantes, Lila Tolan, qui va chanter le style Drupad, et moi je l'accompagnerai au pakawatch, qui est l'ancêtre du tabla. Ouais. Et sinon, il y a des styles plus modernes, le khayal, qui est le style qui date des invasions mogoles et des...
Donc il y a des influences aussi.
Oui, il y a des influences très diverses, ouais, en Inde.
On va laisser t'installer, et peut-être qu'en générique de fin, on te demandera de jouer aussi un autre morceau.
Okay,
donc on laisse t'installer tranquillement et sans faire trop de bruit. Nous sommes en direct, et avec Christophe, on va juste continuer, et Alexis nous fera signe quand il sera prêt, et puis on va pouvoir jouer. Juste un mot, oui, Alexis.
Juste histoire de rajouter quelque chose, c'est ça qui est assez marrant en tabla, c'est en fait, c'est un langage, c'est-à-dire que chaque frappe correspond à un onomatopée.
D'accord.
Par exemple, na, tin, tun, te, kran, etc. Et donc on construit un langage. Donc ce que je vais vous jouer, c'est une sorte de poésie qui est dans un certain rythme, mais c'est une construction de langage. Enfin, etc.
Vous allez... Très bien. Bon, on te laisse t'installer. Donc, Christophe, Alexis sera partie prenante. Il nous expliquera tout à l'heure peut-être le principe de la sieste musicale. Hein. On développera ça un tout petit peu. Donc, si tu es prêt, Alexis, on va pouvoir y aller. Thank you.
très
bien.
C'était une introduction, ouais. En quelque sorte.
Merci, merci Alexis. On va te laisser t'installer à nouveau et on va poursuivre. Alors ça, c'est donc là, c'était en solo.
Voilà.
C'est en accompagnement de. C'est souvent en accompagnement.
C'est souvent en accompagnement. Alors que ce soit de joue beaucoup avec un sitariste nantais aussi, Thomas Jacot. Et alors c'est un instrument essentiellement d'accompagnement, que ce soit avec sitar ou sarod, qui est une sorte de guitare indienne, ou la danse katak. D'Inde du Nord aussi, et à chaque fois c'est un répertoire différent. On n'utilise pas les mêmes onomatopées, les mêmes constructions de langage tablin en fait.
Ouais. Et là, ça fait plusieurs années que tu.
Ça fait 12 ans, oui. Ouais.
On apprend toujours ou
Moi j'apprends toujours, c'est sans fin honnêtement. Comme disait mon premier prof, Nimaïdas, je suis comme l'océan. L'océan, t'as beau en retirer des seaux entiers, ça reste l'océan quoi. Bon ouais. Après
C'est un art très rigoureux. Les professeurs sont très durs.
Alors ça dépend. En général, oui, mais ça dépend des caractères. Chacun a plus ou moins sa méthode. Mais la particularité, c'est qu'on vit avec la personne. Donc finalement, l'enseignement peut se passer à n'importe quelle heure. Ça m'arrive, par exemple, de pratiquer toute la journée. À 10h le soir, mon prof est dans le mood. Donc il dit, tiens, ben, sors les tablas, c'est l'heure de taleçon. Alors qu'à 10h, je comptais aller dormir. Mais après c'est un art assez technique, on peut s'amuser assez vite, mais pour jouer classique, etc., c'est faut juste être patient, quoi. C'est systématique. Et ce qui est dur en musique indienne, c'est de choper le son de l'instrument, le timbre, d'avoir un bon timbre, en fait. C'est des instruments pareil en sitar,
oui,
pareil en
sarangi. Parce que c'est tes mains qui travaillent.
Oui, tout à fait. Donc c'est pas comme sur un synthé ou... Après, il y a un toucher au piano, etc., ou au djembé, bien sûr, mais là, ça prend un petit peu plus de temps, mais avec un peu de patience et dans la bonne humeur, c'est sûr.
Alors, on l'a dit, tu seras présent pour le festival donc Calypso,
ouais.
Le 9 juillet.
Oui.
Et, alors, il y aura peut-être plusieurs prestations,
oui, alors,
et puis différentes... On a évoqué la sieste musicale.
Tout à fait, oui. Bah, alors, donc, le Drupad, qui est le style chanté ancien, qui est assez proche du yoga en un sens, parce que... qui essaye de vraiment se concentrer sur chaque note et comment revenir sur la note, etc. C'est travailler avec les microtons dans le cadre mélodique de ce qu'on appelle les rags, et qui sont des structures d'improvisation indienne. Et donc Lila va nous présenter un rag petit à petit, après le déjeuner, d'abord sans percussion. Et ensuite, il y aura la partie accompagnée aux percussions, une discussion entre nous, dans un cycle rythmique particulier qu'on expliquera. Et ensuite, probablement fin d'après-midi, il y aura un petit tabla solo, comme ça, d'une vingtaine de minutes, quoi.
Ouais. Tu fais partie d'une association. Quand tu n'es pas en Inde, qu'est-ce que tu fais ?
Oui, à Nantes, nous avons une association qui s'appelle Utana. Et pour l'instant, je donne surtout, je tourne pas mal, je donne beaucoup de concerts et j'accompagne pas mal de gens en Europe. Mais on a quelques élèves dans l'association. On aimerait en avoir plus éventuellement. Même je recherche des gens jeunes et super motivés. Le but premier n'est pas de gagner des sous avec l'enseignement, ça c'est plus réservé aux concerts, etc. Moi j'ai pas vraiment payé mon apprentissage à part le fait de devoir aller en Inde, etc. Donc c'est un côté assez important, surtout qu'il faut beaucoup de temps pour apprendre.
C'est une transmission de savoir, hein.
Voilà, c'est une transmission de savoir avant tout. Et c'est quand même un des intérêts fondamentaux. C'est un plaisir, quoi, de transmettre. Le problème, c'est qu'on est en Inde 6 mois par an. Donc, pour la régularité avec les élèves, il y en a qui vont, il y en a qui viennent. Mais bon, doucement, ça se fait, quoi.
Ben c'est très bien. On écoutera Alexis encore tout à l'heure. On disait tout à l'heure, pour revenir dans le festival lui-même, avec les différentes animations, la vitrine donnée aux associations qui seront présentes. Il y a des associations humanitaires, il y a des associations culturelles. Il y a un mélange, en fait.
Oui, c'est au niveau associatif aussi mélangé. Ouais, les associations culturelles, les associations humanitaires. Le but, c'est que chacun puisse montrer ce qu'il sait faire et les actions qu'il développe au niveau associatif.
Alors, on associe bien sûr les commerçants du quartier. D'ailleurs, nous-mêmes, nous sommes là-bas invités, hein, pour pouvoir faire cette émission sur l'espace.
Hein. Bien sûr, les commerçants sont partie prenante sur le festival. Le repas, d'ailleurs, le soir aura lieu cette année au restaurant de Pot-au-feu, qui s'est fait remarquer il y a quelques semaines dans une émission de télévision.
Qualité,
donc, il y aura ce repas qui sera servi par le restaurant. Donc, les inscriptions se font en ligne ou à la permanence à la maison de quartier tous les vendredis après-midi de 14h à 17h30. Et sinon, nous avons monté un site où les gens pourront retrouver la programmation et s'inscrire également pour le repas.
Oui, je rappelle que cette émission sera rapidement mise à disposition des auditeurs. Si vous prenez en cours sur notre site internet, on mettra aussi toutes les différentes coordonnées. Donc tout se présente sous les meilleurs auspices, tout est prêt, ou les choses de dernière minute, il y a des choses encore à caler.
Oh bah, il y a toujours des petites choses, à caler, mais dans l'ensemble, voilà, on va dire que le plus gros de la préparation est faite. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet, dans l'organisation jusqu'au jour J.
Oui, tu as insisté sur le fait aussi qu'il y a des groupes qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas forcément nantais. Hein, vous avez essayé d'élargir un peu.
Au niveau associatif, musical, oui, on a fait des recherches. Et puis après, c'est aussi en fonction du budget, de ce que l'on peut mettre dans telle ou telle prestation. Voilà, le but, c'est que ce soit aussi éclectique au niveau de ce que l'on présente, hein, et surtout de toujours proposer quelque chose de qualité. Donc, c'est ce qui a fait qu'on a fait ces choix-là, qui me paraissent intéressants.
Oui, tu as insisté tout à l'heure sur le niveau aide et budget. Les choses se passent à peu près correctement, surtout qu'actuellement, on sait les difficultés que connaissent beaucoup de structures.
Hein. Au niveau budget, tout le monde connaît les difficultés, que ce soit ici ou ailleurs. Je pense que c'est pas plus à Nantes que dans d'autres villes. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une rigueur qui est demandée de la part de tout le monde, ce qui est plutôt bien. Après, je pense qu'il faut pas freiner non plus les structures dans les différents secteurs de la ville. Il faut pas tout monopoliser, mais je l'ai déjà dit plusieurs fois, tout monopoliser sur le centre-ville, mais bien donner une pertinence culturelle à tous les grands secteurs de la ville, puisqu'il y a quand même beaucoup d'habitants qui résident sur ces espaces, et la culture doit être accessible à tout le monde, et c'est aussi le but de faire ce type de manifestation sur le quartier Beautier-Chenet, c'est que la culture vienne vraiment au plus proche des gens et qu'on leur donne la possibilité aussi de s'investir quelque part dans ce type de projet et peut-être de s'ouvrir à d'autres formes d'action à leur niveau, de découvrir vraiment la musique, de découvrir le fait de pouvoir voyager, d'aller donner de son temps, d'aller la rencontre de l'autre, c'est vraiment ça, quoi.
Oui, l'année dernière, ce qu'il faut, c'est associer justement aussi le quartier. Hein. La première année, les gens regardent plutôt un peu ce qui se trame. La deuxième année, c'est déjà rentré un peu dans les mœurs. Et il y a eu du monde l'année dernière. Donc,
l'année dernière, oui, il y a eu du monde. L'année dernière, on était encore sur deux jours. Il y a eu quand même un passage qui a été important, surtout plus en fin de journée qu'en début de journée. Mais bon, les gens se mélangeaient. C'était vraiment intéressant à voir, puisqu'il y avait même un camp de Rome qui se trouve juste sur la route de Saint-Luce. Ils ont participé aux deux jours de fête. Hein. Et le plus beau message que l'on a eu, c'est qu'on a des femmes du quartier qui sont sorties le soir. Qu'on était en période de Ramadan l'année dernière, qui sont sortis le soir pour danser avec leurs filles. Et ça, c'était une belle image, puisque c'est rare de voir des femmes maghrébines sortir le soir avec leurs enfants, pouvoir faire la fête, se mélanger au reste des gens. Et ça, c'était une belle image, et c'est ce qui nous est resté, et je pense que c'est ce qui fait aussi qu'on a envie de continuer, puisqu'on donne cette possibilité-là et on voit que ça fonctionne. Le but au départ, c'était ça, et c'était pas gagné au départ de réussir à faire se mélanger tout le monde, mais le but, c'est que tout le monde se mélange à travers ses différences, avec aussi toutes ces richesses qu'on a à s'apporter les uns aux autres.
Oui. Bon, c'est très bien. Merci, Christophe, pour toutes ces explications qu'on aura l'occasion de redonner, hein, d'annoncer justement avant le 9 juillet sur notre antenne et sur nos réseaux sociaux. Pour terminer, on va demander à Alexis... peut-être de conclure cette émission par quelques mots, peut-être, sur ce qu'il va jouer, et puis musicalement.
Là, je vais peut-être jouer quelque chose de plus folklorique, qui est utilisé dans les chansons légères. Là, notamment, ce serait peut-être un rythme en 8 ans qu'on appelle le kerva, qui à la base fait dina, din, dina, 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 etc. Et puis, j'essaie de le faire varier.
Très bien. On va t'écouter. Donc, je te remercie, hein, Christophe, d'avoir été présent.
Merci Daniel et merci Alternante, bien sûr, qui est partenaire du festival.
Et on se retrouvera en direct le 9 juillet là-bas sur la place du Commandant Cousteau. Je remercie également Manu qui réalisait cette émission. Et nous écoutons en générique de fin Alexis. Merci.